I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Même when you talk dirty.
Celle-là, c'est l'émission. Là, c'est. Je m'en bats les glaouilles. Hein. Bon, on y va. Allez, vas-y, balance.
Bring it on.
Don't fuck with me.
Salut, c'est Yannick Daron, et aujourd'hui, on ne va pas faire dans la finesse, puisque j'ai commis la monumentale erreur de m'intéresser non seulement à l'actualité des sorties en salle, ce qui, j'avoue, revient désormais au même que dénicher un bon nanar sur une plateforme VOD, mais surtout, au cinoche d'horreur, Halloween oblige, en me disant qu'une bonne dose de transgression gorace, et qui s'est inspirée peut-être, me ferait du bien à l'heure où notre monde de trous de balles plonge chaque jour davantage dans la soumission navrante à une doxa conformiste qui se fout ouvertement de notre gueule. Je suis donc allé voir un film d'horreur, en tout cas marketé comme tel, pour ceux qui veulent encore croire à ce qu'on veut leur faire croire, tout en sachant qu'ils se forceront à y croire parce qu'ils désespèrent de trouver de quoi croire encore. Et ce film d'horreur, ou plutôt ce truc indéfinissable, tant il repousse les limites de l'incongruité conceptuelle, n'est autre que Halloween Ends, qui, je le rappelle pour les deux cancres du fond qui se sont arrêtés avec une clairvoyance salutaire au film de Carpenter, est le troisième opus d'une trilogie qui se voulait suite directe du film de 78, après un diptyque de Rob Zombie qui rebootait la franchise, lui-même succédant à 7 suites péraves et aussi Z que la myriade de Vendredi 13, dont le premier opus, je rappelle là aussi, était déjà un sous-Halloween du pauvre. Autant dire qu'avec ce Halloween Ends, le pari d'éviter la redondance était déjà mal parti.
He killed my daughter. But tonight, I will kill him. Come and get me.
Lori!
Maybe the only way he can die is if I die too. It all ends now.
Comme avec un bon vieux Jason des familles, j'y allais donc en m'en battant les glaouis de l'histoire, de la mise en scène, des acteurs et même de cette pauvre Jamie Lee Curtis, qui était pourtant la seule dans Halloween Kills, la précédente bouse de la trilogie, à ne pas jouer comme une otarie bourrée à la bière. J'y allais donc à la fraîche, en espérant seulement qu'on y empale et qu'on y décapite joyeusement dans des gerbes d'hémoglobine dégueulasses servies avec une once de générosité complice, ce qui était au moins le cas du précédent opus. Mais là, putain, j'ai été bluffé. Parce qu'en se disant sans doute que tout ça commençait à sérieusement puer le réchauffé, les mecs, et j'entends par là ceux qui se sont dit en 2018 qu'ils allaient être super fidèles au film de Carpenter parce qu'ils reprenaient la musique, le générique et des acteurs grabataires, ont réussi à relever le pari de faire un film totalement différent des autres et pour le moins inattendu. Bon, ce qu'ils ont fait à la place relève du nanar intergalactique, et puis c'est plus un film d'horreur. Et c'est pas un Halloween non plus, puisque Michael Myers monte sa tronche pas plus de 5 minutes à l'écran, mais pour une fois que des mecs se disent, après un nombre incalculable de suites et de remakes, vas-y, on s'en branle de Michael Myers, on est plus malin que ça, on va faire un truc profond qui déboîte, ça mérite de saluer l'initiative, à défaut de leur filer une bonne grosse paire de baffes en pleine gueule. Bref, le mieux, c'est que je vous la fasse comme je l'ai vécu, sachant que j'y allais sans rien savoir sur le film. Ça débute donc sur l'intro, qui se veut choc, classique, avec un babysitter qui vient garder un monde de riche. On se dit qu'il va évidemment se faire zigouiller par Michel, mais là, méga twist qui tue, c'est ce con de babysitter qui bute par accident le char, sans bien sûr que notre tueur masqué ne soit présent. Et déjà, on aurait dû se méfier. Mais l'incongruité de la chose était au moins intrigante, et quand le film embraye, 4 ou 5 ans après la fin débile d'Halloween Kills, on est curieux de savoir le pourquoi du comment. Mieux, pendant les 20 premières minutes qui nous racontent comment Laurie Strode se reconstruit, en mode « j'écris un bouquin sur la résilience digne d'un mantra macroniste » et comment sa petite fille tombe amoureuse du babysitter, désormais ostracisé dans toute la ville, je trouvais que, pour une fois, il y avait une histoire qui se déroulait et pas que des persos posés n'importe comment dans le seul but de se faire dessouder. Une histoire certes aussi neuneux et pantouflard qu'un teenage movie sous l'exomile, mais une histoire quand même. Puis passe 30 minutes, puis 45, puis une heure, je dis ça à vue de nez, et putain, toujours pas de Michael Myers sans déconner. J'insiste parce que faut mesurer quand même la chose, Halloween, une heure, pas de boogeyman. Et on a quoi à la place ? Eh ben l'évidence, mais brave, dès lors que le babysitter en question, qui se fait emmerder par une bande de jeunes tocards, croise Michel, qui visiblement squattait un égout depuis 4 ans, et qui décide de ne pas le tuer après l'avoir regardé dans les yeux et donc sondé son âme. Et cette évidence, mais brave, c'est un psychodrama infantile pour décérébrer qui se dit que pour conclure dignement sa trilogie, il faut réfléchir sur le mal, tu vois, bien appuyer sur le fait que Michael Myers n'est qu'une allégorie et pas un personnage, et que ce qu'il symbolise peut s'immiscer en chacun de nous, et qu'il faut bien évidemment paraphraser tout ça à coups de diatribes littéraires aussi pétées que celles d'un pilier de comptoir torché au Beaujolais qui voudrait nous expliquer les théories de Françoise Dolto. Non mais je jure, le film c'est ça. Mais le vrai problème de celui-là, c'est bon. J'ai envie de te dire, au-delà même de l'idée conceptuelle du film qui est de dire « En réalité, on va faire un truc méta, on va faire un truc philosophico-intello sur qu'est-ce que ça signifie Michael Myers », ce qui est déjà complètement crétin par rapport aux attentes du public, mais c'est globalement tout le reste. C'est toute cette prétention fausse. Tu vois, pour moi, c'est vraiment le film du mec, du débile qui est à côté de toi et qui va te dire « Je vais t'apprendre la vie ». Et là, t'as envie de dire « Non mais mec, ne te lance pas là-dedans, tu vas pas y arriver ». Et le seul moyen qu'il trouve pour vaguement t'expliquer ça, c'est d'imaginer que Jamie Lee Curtis a écrit un livre sur la résilience. Du coup, ça lui permet de faire la dissertation scolaire de « Qu'est-ce que c'est une allégorie du mal ?» Il y a le mal extérieur et il y a le mal intérieur qui peut s'immiscer en chacun de nous. Il faut faire attention. C'est un film de putain de fragile qui élève encore une fois cette espèce de notion à la mode hype et complètement dévoyée de la résilience, tu vois, et c'est vraiment fait. Le résilient, c'est Michael Myers. En réalité, excuse-moi, c'est lui le résilient depuis 15 films, quoi. Et c'est tellement neuneux. J'ai l'impression de voir une disserte d'un mec de collège qui est en train d'essayer de m'expliquer ce que c'est une figure du mal, quoi. Ferme ta gueule. Fais-nous des mecs qui désinguent des mecs, on est venus pour ça. Avec une prétention conceptuelle inversement proportionnelle à la qualité de son écriture, le film nous déroule donc, avec la délicatesse d'un pachyderme, l'histoire du gentil babysitter qui se prend soudain pour Michael Myers et qui tue même en mode psychique avec son modèle, au mépris de ce que toute la mythologie posée par Carpenter pouvait signifier. Un mélange absurde de fausses bonnes idées, d'éléments qui voudraient faire sens sans en comprendre la portée, un agrégat de scénettes collées au mépris du bon sens, qui alterne entre la romance cucu, la psychanalyse pour les nuls et le drame familial, le tout systématiquement surligné par une insupportable voix off démonstratrice adressée à ceux dont le QI ne dépasse pas leur température anale. La seule chose positive pour moi, elle est ridicule, mais la seule chose positive pour moi dans celui-là par rapport à Halloween Kills, parce que j'ai évidemment re-regardé Halloween Kills avant pour pas être complètement largué sur celui-là, c'est que j'avais pas mesuré à quel point les acteurs jouent mal dans Halloween Kills. C'est hallucinant. T'enlèves Jamie Lee Curtis qui se débrouille comme elle peut, les autres, c'est une catastrophe. Alors au moins celui-là, les mecs sont pas trop mauvais. Ils sont pas aidés, hein, parce que les dialogues, vas-y.
Enfin, le babysitter, il est nul, hein.
Ouais, il est pas terrible. Mais c'est je veux dire, les autres jouent quand même un peu mieux. Au moins, t'as le vieux, là, le vieux flic qui joue pas mal, Laurie qui joue pas mal, sa petite fille qui joue pas mal. Dans le film d'avant, c'est insupportable. C'est hallucinant.
T'as aimé le beau-père du babysitter?
Ah ouais, putain, je l'avais oublié, lui. J'en ai même pas parlé. Ouais, une espèce de beau-père qui ressemble à un Mexicain qui fait un cantal et qui, en fait, quand tu le chopes, il est dans son garage, là, ou je sais pas quoi, et la seule chose qu'il a à foutre la nuit avant de se faire buter par quelqu'un d'autre, c'est de regarder Hard Target avec Van Damme. Nous, on était dans la salle, on était là, on regardait, je me dis, c'est quoi le délire ? Et l'autre qui fait un gros plan sur la télé, c'est Hard Target, quand tu vois Van Damme avec sa coupe, là. Et j'étais là, putain, mais n'importe quoi, le mec. Il fallu qu'il lui mette un burrito dans les trucs et on avait le tableau parfait, quoi. Non, mais...
Il a la plus belle phrase du film.
C'est laquelle déjà ?
J'espère que tu vas trouver l'amour.
J'espère que tu vas trouver l'amour. Non mais c'est ça qui est génial, parce que le mec, t'es un Mexicain, tu sais, c'est pas dans tout le délire un peu inclusif, progressiste qu'ils font, mais quand tu le regardes à l'aune de Halloween Kills, mais c'est, t'as envie de dire, non mais c'est génial.
Halloween Ends.
Non, même à l'aune de Halloween Kills, c'est là où tu veux dire, tu peux pas le balayer l'hypocrisie ou le militantisme, peu importe, tu peux pas balayer, parce que effectivement, nous, on a rien à foutre qu'il y ait un black, un mexicain, on s'en tape, c'est pas ça le sujet, c'est que tu fais juste pas n'importe quoi avec tout ça, et surtout, si tu le fais, c'est pas pour être encore plus caricatural que ce que tu veux condamner, ce qui est ouf, c'est-à-dire que là, dans le précédent, ils y sont allés à fond en mode inclusivité dans Halloween Kills, donc t'avais des blacks, des gays, t'avais tout le monde, mais ils se font tous tuer par Michael Myers. C'est génial, je veux dire, elle est super votre inclusivité. Au final, le mec, il les bute tous. Donc, dans celui-là, t'arrives, tu te dis, ah, il n'y en a plus tout d'un coup. Il n'y en a quasi plus.
Et,
ils ont tous été tués. Il n'y en a quasi plus. Ils te mettent un Mexicain, et c'est limite s'ils lui mettent un taco et un sombrero sur la tête pour qu'en regardant un film d'élu, t'es là, tu fais, non, mais les mecs, il faut vous arrêter là. Faut arrêter, c'est plus possible là. C'est n'importe quoi ce que vous faites. Au bout du truc, par souci de cahier des charges, sans doute, on te raccorde n'importe comment Laurie Strode à Michael pour un combat final que j'imagine tout le monde attendait et qui est expédié en moins de deux dans une pauvre cuisine. Maintenant que vous savez que Michael n'apparaît que 5 minutes sur les 1h50 du métrage, imaginez ce que j'ai dû subir avant d'arriver à la seule chose que je venais voir. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est... Tu viens voir Halloween, quoi. Il te montre pas Michael Myers. Bon, ok, t'en arrives à, je sais pas, ça, j'ai pas calculé, mais ça doit faire 15 Halloween maintenant. On sait pourquoi on va les voir. Tu sais pourquoi t'allais voir Vendredi 13 au bout d'un moment. C'était juste envie de rigoler de la façon dont Jason va tuer les mecs, quoi. Et au moins, dans certains Vendredi 13, ils cherchaient l'originalité du meurtre absurde, du truc que t'avais pas vu, de l'idée un peu marrante, ce qu'avait d'ailleurs très bien fait aussi à sa manière Destination Finale, quand ils essayaient petit à petit de te trouver des façons originales de buter les mecs parce que tu sais que t'es dans un slasher, quoi. Là, c'est même plus. Mais là, c'est même pas. J'aimerais dire que c'est la pression de conclure la trilogie qui fait que les mecs ont dû se dire, oulala, alors non seulement il faut conclure, mais il faut qu'il y ait un combat avec Jamie Lee Curtis, et puis il faut iconiser la fin, la mort de Jason, et en même temps, c'est une allégorie du mal.
C'est Michael Myers.
Hein ?
C'est Michael Myers.
Oui, de Michael Myers. Et en même temps, c'est une allégorie et qu'il faut parler de tout ça. Et tu sens que, je suis désolé, juste intellectuellement, ça les dépasse. Intellectuellement, ils n'ont pas le niveau. Donc en fait, tu m'avais dit une chose très très juste en sortant du film, c'est que c'est des idées. Tu vois, à la fin, quand il est mort, ils font une espèce de procession à la con devant tous les gens de la ville pour transporter le corps de Michael Myers. Et c'est amené n'importe comment, c'est comme le combat final. Mais tu dis... Ils se sont dit, ah ouais, il faudrait un truc comme ça pour iconiser. Ah ouais, il faudrait faire un truc comme ça. Parce que tous les twists du film sont des twists à la con sur tu crois que c'est Michael qui va tuer, mais en fait, c'est pas Michael qui tue. Les flics vont penser que Jamie Lee Curtis est celle qui a tué le mec. Enfin, que des trucs bidons, que des trucs de gogol, quoi, réellement. Non, sans rire cette fois, il y a des purges souvent, des purges pardonnables parfois, et des purges qui se foutent ouvertement de leur public, ce qui est absolument indéfendable. Le fait qu'on puisse oser sortir le dernier opus d'une franchise populaire, bien qu'interminable, comme Halloween, en effaçant littéralement Michael Myers, son principal attrait, témoigne non seulement de la déconnexion totale de ses instigateurs avec leur public, mais encore de l'absurdité absolue de ce qu'ils ont dans le crâne. Après, faudra pas s'étonner de la baisse drastique de la fréquentation des salles. Le film précédent se termine sur la mort de sa fille. Enfin, je veux dire, c'est vraiment là-dessus que ça s'arrête. Moi, je me disais, quand j'ai vu ce deuxième, qui avait au moins l'idée sympathique d'être directement dans la nuit d'Halloween non-stop, je me disais, ah tiens, pas con, je vais faire une trilogie qui se passe sur une nuit, tu vois, sur une nuit d'Halloween, avec des trucs qui... Non, alors déjà, c'est niqué dès le début, ça va être 4-5 ans plus tard, et comme il le dit, c'est exactement ça. C'est, tu dis, la meuf, elle a fait la paix avec moi-même. Donc, elle est résiliente. Donc, elle n'est pas en colère
avec elle-même.
Ouais, avec elle-même. Elle n'est pas en colère de la mort de sa fille. Elle a revendu sa maison. Et donc, en fait, ce qu'on te valorise, c'est d'être tout simplement une victime qui se reconstruit. C'est ce qui est en plus complètement à l'opposé de la volonté thématique du premier de la trilogie, qui était de dire nous, les trois femmes, ensemble, transgénérationnelles, nous allons niquer l'homme taré avec son masque. Tu te dis, vous, en fait... Vous fluctuez au gré du truc médiatique ou de la com théorique du moment, sont jamais aucune réflexion en profondeur sur rien. C'est au gré des modes du moment, on place des trucs. Alors il y a 4-5 ans, c'était MeToo, après c'était un autre truc, maintenant c'est la résilience. Enfin, non, mais moi je peux rien sauver, il y a rien à sauver en fait dans ce film. Il y a strictement rien à sauver, ça mérite même pas qu'on y passe autant de temps. Allez, next, on tourne le prochain. Merci, au revoir. Donc, et puis comme Eddie Murphy, tu ressors, t'as fait... Bon, bref, allez, merci, putain, non. Si c'est pour nous sortir ça au cinéma, non, on va pas y aller. Voilà, la minute Yannick Dans, c'est terminé. Bon, voilà, un film qu'on va vite oublier. On se retrouve, du coup, la semaine prochaine. Alors, cette fois, ce n'est pas un film. Qu'est-ce que c'est ? Mystère. On verra, mais c'est quelque chose de vachement bien et ça fait plaisir quand on a de véritables œuvres d'art qui débarquent et pas des bouses irregardables. Allez, à la semaine prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.